prochaine deuxième fois. Voilà. Mais écoutez, alors rebonjour. Désolé, je suis dans l'innovation. Vraiment désolé parce qu'on voulait vous présenter des vidéos. On peut pas, a priori. On en a su qu'au dernier moment. Donc on va essayer de faire avec les moyens du bord pour vous expliquer, vous décrire un projet qui aujourd'hui a débouché sur du concret puisque c'est un projet de résidence senior qui est ouvert à Cluny, puis il y en a d'autres qui suivent derrière, en partenariat avec Medetic Technologies et Philippe Metzantin, qui est par ici, il est en train de fouiller dans son sac, mais il va revenir, vous inquiétez pas. Donc le sujet, c'est de vous présenter ce projet qui a été en fait qui est aujourd'hui reproduit sur plusieurs villes, communes, qui n'est pas un projet de promotion immobilière, mais qui est un projet qui a été réalisé en partenariat avec les communes dans lesquelles nous nous inscrivons. Et donc le sujet, c'est effectivement aujourd'hui de trouver des solutions intermédiaires entre le maintien à domicile et la maison de retraite, enfin, en tout cas le milieu médicalisé. Et le sujet, c'est d'essayer de concevoir des lieux de vie pour ces personnes qui recherchent donc un nouveau lieu de vie, peut-être plus adapté que le domicile pour certains, et que ce lieu de vie soit adapté à leur cadre de vie senior. Et le sujet, on va essayer de vous donner des exemples concrets, puisque c'est des choses qui ont été réalisées donc sur Cluny, c'est de réaliser des solutions de logement qui intègrent d'autres paramètres. Ne pas faire uniquement du logement, mais intégrer des paramètres qui sont très importants, que sont la sécurité, la santé et le lien social, voilà, sous le même toit. Et tout ça, ça donne un vrai cadre de vie. Alors, je vais vous parler de la partie sécurité. Il y avait même le vidéoprojecteur qui s'y met, on aura tout vu. Bon, j'espère que vous voyez la suite, on va le pousser un peu quand même, histoire que tout le monde puisse voir. Voilà. Donc voilà les paramètres pour réaliser un cadre de vie qui soit pas uniquement qu'un logement, un cadre de vie qui soit pas uniquement qu'une une unité de promotion immobilière, mais qui corresponde aux attentes des personnes âgées. Parce qu'aujourd'hui, les personnes âgées veulent bien déménager, des fois, mais pour qu'elles puissent déménager, il faut que ça réponde à des besoins. Et le premier besoin, c'est souvent un besoin de sécurité, parce que vous avez des personnes qui déménagent parce qu'elles se sentent plus à l'aise dans leur logement. Elles le trouvent trop dangereux, ou alors elles sont déjà fait mal, ou elles se retrouvent isolées. D'où l'intérêt, effectivement, de ramener dans le nouveau logement cet aspect sécurité. La sécurité, ça passe par plusieurs points. Donc la conception même du logement. Nos logements, donc chez Serenor, ont été conçus par des ergothérapeutes et des médecins gériatres, et ce qui fait que tous les logements qui ont été conçus aujourd'hui sont reproduits à l'identique dans toutes les réalisations que nous faisons. Avec des petits plus, alors on va vous les montrer, enfin je vais vous en montrer quelques-uns en photo. Alors il n'y a rien de transcendant, par contre c'est des éléments de bon sens que si on n'intègre pas à la base, ça ne facilite pas la vie des personnes âgées. Il y a aussi beaucoup de technologies, ce qui nous a valu cette année d'être lauréat sur deux prix Batimat, enfin sur, pardon, Promotelec et Smart Home Awards, on vous en parlera un peu plus tard. Et puis il y a aussi le troisième paramètre qui est surtout très très important. C'est toujours garder, malgré toute la technologie qu'on peut y apporter, la présence humaine. Voilà, c'est ce qui favorise aussi la sécurité. Alors au niveau sécurité, se donnent des exemples concrets, puisque ça c'est le programme que nous avons ouvert sur Cluny. Vous voyez, alors vous avez dit c'est un frigidaire, mais c'est effectivement c'est un frigidaire. La différence, c'est que je ne sais pas si vous voyez, mais le bac à légumes, il a été rehaussé de 40 cm, ce qui évite aux personnes âgées, quand elles vont piocher dans le frigo, de se baisser et de chuter. Voilà, un exemple. Alors ça, c'est des exemples, on va dire, en images, de la sécurité, donc sujet sécurité et sujet conception du logement. Deuxième chose, ça c'est l'entrée principale du logement, ce sont des appartements de plein pied, T3, T4, il y a zéro marche dans toute la résidence, donc tout est accessible en fauteuil roulant, de partout, voilà. Donc ça c'est effectivement un deuxième élément. Au niveau ergonomie et sécurité, et on va dire facilité de vie, alors ça c'est une photo qui a le mérite de montrer trois choses. La première, un sèche-serviette, voilà, je vais arriver avec le doigt, voilà. La particularité du sèche-serviette, c'est que je sais pas si vous avez vu, mais le bouton, d'habitude, les boutons ils sont en bas. Voilà, le bouton est en haut, donc même chose, pour éviter que les gens se baissent et chutent. On est dans la salle de bain, vous avez pu le comprendre. Vous avez des meubles ici qui sont en retrait sous évier, qui permettent aux personnes âgées, parce qu'on a toujours l'impression que ce public-là se comporte, on va dire, au quotidien comme nos habitudes à nous, mais c'est pas du tout la même chose. Il faut savoir que vous avez des gens de plus de 80 ans, un sur deux fait sa toilette assis. Voilà, et pour faire sa toilette assis, il faut déjà s'asseoir, il faut pouvoir mettre ses jambes sous un évier, et lorsqu'on est assis et qu'on est ensuite en train de faire sa toilette, encore faut-il être capable de tenir le mitigeur et de contrôler son eau chaude, eau froide, et vous voyez que là ici le mitigeur est rallongé, et on le voit pas, mais je vous le dis, enfin, si on l'aperçoit ici sur la photo, vous avez le miroir qui est incliné à 10 degrés, pourquoi ? Parce qu'on est assis pour se voir, si vous mettez un miroir à plat, vous voyez plus, vous voyez que la tête. Voilà. Bon, c'est des éléments qui sont entre guillemets simples, mais qui ont le mérite d'exister et qui simplifient le quotidien de la personne et qui améliorent la sécurité parce que, in fine, ça évite les chutes. Bon, autres éléments qui sont à peu près du même ordre. Vous voyez la hauteur des prises électriques sur la troisième photo, des prises qui ont été surélevées pour éviter aux gens de se pencher. La salle de bain, vous voyez que c'est des portes qui sont coulissantes, ça évite aux gens de chuter, parce que souvent les gens chutent dans les salles de bain, hormis le fait que le sol soit glissant, c'est souvent quand on ouvre et on ferme, hein, c'est parce qu'on demande, quand on ouvre avec une porte battante, ben forcément on doit faire marche avant, marche arrière, et c'est à ce moment-là qu'on chute. Et puis vous avez la première photo en partant de la gauche, où vous voyez en haut à droite, non seulement une tirette d'appel, mais aussi un capteur, et on parlera du capteur, puisque ça me permet d'introduire un point important dans la sécurité. J'ai dit qu'il y en avait trois sur la sécurité. Un, je reviens simplement sur les principes. Il y a la conception du logement. Vous avez pu voir que, effectivement, il y a certaines exigences d'ergonomie qui ont été intégrées en amont pour la réalisation de ce programme-là. Mais il y a aussi de la technologie. Et ça me permet, pour la technologie, de passer la main, enfin, en tout cas le micro, à Philippe Mezzantin, donc, de Medetic Technologies.
Bien, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, les technologies, c'est un peu le jambon du sandwich, comme vous pouvez le constater. Et ceci nous amène à traiter l'aspect technologique de manière un peu particulière. D'une part, en étant présent en amont, au moment de la conception de l'enveloppe, puisque mettre des technologies même les plus performantes possibles à l'intérieur d'une enveloppe qui n'est pas adaptée ou qui est mal située, ça ne permettrait pas d'obtenir l'effet escompté. Deuxièmement, mettre des technologies qui sont capables de relever un certain nombre de problèmes potentiels, ou tout au moins de les suspecter, sans avoir organisé la relation avec l'intervention humaine en aval, ça n'aurait pas plus de sens. Donc nous sommes bien effectivement en sandwich entre une démarche amont, qui est celle de la conception globale du projet, et une exploitation aval qui va devoir exploiter le résultat délivré par les technologies pour organiser les services auprès des personnes qui vivent dans ces logements. Donc les technologies, elles ont pour objet d'adresser quatre grandes familles de problématiques, celle du confort et de la sécurité. Alors ça tourne autour d'un certain nombre de choses simples, comme la commande des volets électriques, la commande des circuits d'éclairage, la mise en œuvre d'éclairages particuliers et automatiques lorsque notamment on se déplace la nuit, puisque statistiquement tout le monde sait que la plupart des accidents se produisent la nuit sur le chemin lit-toilette. Donc détecter la sortie d'un lit, mettre un chemin lumineux progressif en termes d'intensité en œuvre, puisque sinon on aurait un effet inverse à celui recherché. Allumer brutalement la lumière, c'est éblouir les gens et garantir également l'augmentation du risque de chute. Donc la mise en œuvre de chemins lumineux, la détection de l'activité au sein du logement qui peut aussi accessoirement servir comme dans un système d'alarme classique à détecter l'intrusion, et puis transmettre ces alertes correspondantes à des situations suspectes, font partie de tout ce que l'on peut apporter en matière d'amélioration du confort, de la sécurité des biens et de la sécurité des personnes. Ensuite, il y a la dimension relative à la santé. Vous en verrez illustrer quelques exemples tout à l'heure, comme la possibilité de demander aux résidents de participer au suivi de leur santé à domicile au travers de petits dossiers de santé collaboratifs qui vont collecter un certain nombre de données qui vont pouvoir être transmises selon la volonté de son propriétaire, à savoir du résident, vers un médecin, un personnel soignant. les services et le lien social. On profite également de la présence de ces technologies pour maintenir, voire développer, le lien social des résidents, en leur offrant des moyens de communication simple, de la messagerie, de la communication vidéo, la possibilité de partager des photos au travers d'un album auquel la famille peut avoir accès pour déposer ces photographies, et puis mettre en place eh bien tout le réseau de communication à l'intérieur du logement, mais aussi avec les organismes chargés d'accompagner les personnes au quotidien vivant dans ces résidences.
Voilà, donc là, ce sont des photos qui ont été prises dans la résidence de Cluny, à côté de Mâcon. Donc, j'en reviens toujours sur le sujet sécurité, parce que c'est le premier sujet que nous développons. Donc, je disais que dans la sécurité, il y a nécessité de, un, répondre à des besoins de sécurité exprimés par les personnes qui vont vivre dans un logement adapté. Et pour répondre à ces besoins, il y a donc nécessité, dans un premier temps, de concevoir des éléments en accord avec leurs besoins, et vous avez pu voir les photos tout à l'heure. Deuxième chose, d'intégrer de la technologie, mais qui soit la plus transparente possible pour eux, que cette technologie ne soit pas envahissante, mais qu'elle aide ces personnes à vivre mieux. Donc là, vous voyez, simplement, dans un logement Serenor, par exemple, vous ne voyez rien d'extraordinaire, à part que tout l'extraordinaire est dans un tableau électrique. Alors vous allez me dire, c'est quoi ce tableau électrique? On va dire que là, c'est normal, et c'est à partir de là, c'est plus normal. Parce que là, en fait, c'est un ordinateur. Bon, l'ordinateur est dans le tableau électrique, donc ça se voit pas. Mais l'idée, elle est là. C'est-à-dire que vous avez de l'intelligence dans la partie supérieure du tableau. Alors vous allez me dire, pourquoi il y a besoin d'un ordinateur dans le logement? Enfin, c'est simple. Vous avez des capteurs dans chaque pièce qui vont petit à petit faire d'auto-apprentissage comportemental et détecter des anomalies dans le logement. Quelqu'un qui fait un malaise ou qui a un comportement anormal dans le temps, ça va générer une alerte, une alarme, qui va ensuite être redistribuée par la petite antenne Wi-Fi là, et qui va donc arriver chez une personne, soit les proches de la famille, soit derrière une centrale ou le gardien de la résidence, s'il y en a un. Là, la dame qu'on a pris en photo, c'était il y a deux jours, elle a 83 ans, elle n'a pas d'ordinateur chez elle, elle n'a pas de mail, elle ne sait pas ce que c'est, enfin, elle l'a jamais utilisé, faut pas lui en parler. Et là, elle a une tablette dans les mains qu'elle a adoptée à peu près en 15-20 minutes. Alors, dans la tablette, c'est pas la photo que vous avez en dessous, ça peut prêter à confusion, c'est pas du tout cette interface-là. Alors, on a mis ça pour agrémenter, mais l'interface est beaucoup plus simple. En fait, cette tablette va permettre simplement, par des gros boutons encore plus gros que ceux que vous voyez sur la photo, de contrôler son logement, donc fermer ses volets, allumer, éteindre les lumières, en plus des interrupteurs qui existent dans le logement, hein, ça change rien, hein, donc on n'impose pas la tablette à cette dame-là, simplement que si un jour la dame elle a du mal à se déplacer, elle a un problème, elle a chuté, elle a fait une rupture du col du fémur, elle a un problème de déplacement, elle peut contrôler son logement à partir de la tablette, au moins sur cette partie-là, après la suite on verra derrière. Donc la sécurité, on a dit, donc la technologie, bon ça, vous avez vu l'explication de Philippe. Alors là, c'est du direct. C'est censé être une vidéo. Voilà, ben vous avez que Philippe qui rentre dans un logement et là il y a la suite de la vidéo. Alors on peut vous la mimer la vidéo.
Bon
si
voilà,
vous
alors je vais essayer de vous raconter rapidement ce que l'on montre dans cette vidéo. Et bien justement, on va montrer la présence des différents capteurs qui sont distribués dans le logement. Donc vous avez des capteurs relativement simples comme des capteurs de détection de fumée. Vous avez des capteurs sur les ouvrants qui permettent de savoir si les portes sont ouvertes ou si elles sont fermées. Vous avez des capteurs de mouvement à l'intérieur de chaque pièce dont je vais vous expliquer l'utilisation tout à l'heure. Et vous avez des tirettes d'appel, par exemple, dans les toilettes, dans les douches, etc., qui permettent de déclencher une action volontaire de demande d'assistance. Les capteurs de mouvement, eux, ont pour vocation d'analyser le rythme de vie des individus à l'intérieur du logement, viennent renforcer l'information que le système dont le système électrique dispose déjà. Pour illustrer cela, je viendrai au tableau électrique chez vous pendant une dizaine de jours. Au bout de 10 jours, je vous garantis que je sais à peu près à quelle heure vous vous levez, vous allumez votre première lumière, vous ouvrez votre premier volet électrique, vous ouvrez la porte, etc., etc. Et à partir du moment où on a à peu près déterminé le comportement standard de la personne vivant à l'intérieur de ce logement, eh bien le jeu pour le système va être de chercher les écarts. Et si le système, un matin, s'aperçoit que le comportement est totalement différent, il n'est pas là pour poser un diagnostic, mais il est là pour dire « il y a quelque chose de différent, humain, déplace-toi, va faire ton travail, va voir ce qui se passe ». D'accord ? Il peut faire cette observation également sur une période un peu plus longue. Ça peut être sur une dizaine de jours où la personne consomme de moins en moins d'eau. On sait tous ce que cela veut dire. Ça veut probablement dire qu'elle fait de moins en moins de toilettes, qu'elle fait de moins en moins de cuisine, qu'elle fait de moins en moins de vaisselle. Donc ça nécessite qu'on aille comprendre ce qui se passe et que l'humain fasse son travail. Encore une fois, les technologies ne sont pas là pour se substituer à l'humain. Elles sont là pour faciliter le quotidien des personnes aidées, mais elles sont aussi là pour faciliter la mission des aidants. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et l'ensemble de ces capteurs et de ces informations collectées à l'intérieur du logement ont pour vocation de distribuer de l'information à la bonne personne au bon moment. Voilà.
Donc, on a épuisé le sujet sécurité. On va passer au sujet santé. Donc, lorsque le projet est né il y a 4 ans, mon idée c'était de dire, enfin, on est parti d'un constat qui est le suivant, c'est que la France, c'est le pays en Europe, troisième pays en Europe où on vit le plus tard. Quand vous regardez la qualité de la vieillesse, on est déclassé en 8e position. On perd 5 rangs dans le classement par rapport à des pays de l'Europe du Nord, notamment Norvège, Pays-Bas. Et qu'est-ce qui fait que on perd 5 places dans le classement? C'est tout simplement parce que en fait en France on vit longtemps, mais on vit pas forcément bien. Et donc il y a nécessité de pouvoir mettre en place en fait une vraie politique de prévention santé pour les personnes âgées pour pouvoir justement vivre mieux d'une part. D'autre part, grâce à une politique de prévention santé, ben, reculer l'arrivée de la dépendance, qui est ni plus ni moins que souvent l'année, voire les 2 dernières années de la vie. Comment peut-on intégrer ces exigences-là dans un logement? Bien, vous allez le voir. L'idée, c'était de dire, on va essayer de prendre de l'information médicale. Cette information, on va la transmettre au médecin traitant de la personne, et lorsque le médecin traitant a cette information, parce qu'il a de l'information complémentaire, il va pouvoir améliorer son traitement et donc mettre, lui, en place une vraie politique de prévention santé. Alors, cette information santé, effectivement, le titre c'est santé, prévenir pour mieux vivre, c'est ce que je viens de vous expliquer. Il y a deux intelligences, une au niveau du logement, une dans le bâtiment, on va dire, commun, dans la résidence de Cluny et dans toutes les autres résidences. Alors, pour ce qui est du logement, là encore, on avait plein de vidéos, hein, plein de vidéos, vous pouvez pas imaginer toutes les vidéos qu'on avait. Alors, je vais vous expliquer, hein, bon, voilà. Vous avez une tablette, toujours cette même tablette, hein, sur laquelle on peut brancher un bracelet pour prendre la tension, d'autres éléments qui viennent en fait mesurer des paramètres vitaux, et ces éléments-là vont être envoyés directement au médecin traitant, via un historique, ce qui fait que très concrètement, je ne sais pas si vous avez vu la petite dame là, qu'on a prise en photo il y a 2 jours, on a fait l'essai, elle arrivait du pharmacien parce qu'elle a été allée prendre sa tension parce qu'elle avait eu une pointe à 20 il y a 2 jours. Et donc elle a été suivie pour un traitement de tension, mais elle a sa tension qui monte d'un coup puis après qui redescend. L'avantage de ça, c'est que le fait de prendre sa tension régulièrement à partir de chez elle, dans le logement, et envoyer cette historique-là au médecin traitant, lorsqu'elle va voir son médecin, qu'elle va lui dire bonjour, le médecin va avoir non pas qu'une mesure qui est celle qu'il va faire sur l'instant lorsqu'il va y avoir la consultation, mais avoir toute une historique pendant un mois qui va voir justement quand elle a la tension qui monte et quand elle a la tension qui descend. Et donc, adapter son traitement. L'idée, elle est là. C'est de, à travers du logement, le rendre intelligent pour faire transiter de la donnée médicale au médecin traitant, la personne, et on se substitue pas au médecin, bien au contraire, c'est pas notre boulot, mais par contre, justement, grâce à ces éléments-là, d'aller plus loin. Et là, on avait une autre vidéo. Elle était géniale, celle-là aussi. Et là, alors là, du coup, je vais vous la montrer. Je suis désolé, hein, je suis têtu, mais parce que là, vous pouvez pas passer à côté de ça. On a mis en place une cabine de télésanté qui a été développée par la société H4D. Alors, je vais passer un peu comme ça. Vous allez voir de loin. Mais en fait, c'est une cabine qui ressemble à un photomaton vu de l'extérieur, à part que quand vous rentrez dans la cabine, elle a deux fonctionnalités. La première fonctionnalité, c'est une fonctionnalité automatisée dans la journée, c'est-à-dire que les personnes dans la journée, il faut savoir que nos résidences sont ouvertes aux personnes qui vivent dans la résidence, mais aux non-résidents aussi. C'est-à-dire tous les gens du village peuvent y rentrer. Il y a d'ailleurs des activités pour les non-résidents aussi. On en parlera un peu plus tard, c'est le lien social. Mais ce que je veux dire par là, c'est que même les gens qui rentrent dans la résidence, qui n'habitent pas dans la résidence, peuvent utiliser la cabine et c'est gratuit. Cette cabine, en 15 minutes, elle vous prend des mesures médicales. Poids, taille, tension, saturométrie, enfin d'autres plusieurs paramètres. Et ces mesures sont éditées sous forme papier, donc les gens peuvent repartir avec, ou encore une fois, envoyées au médecin traitant si la personne le souhaite. Et la nuit et le week-end, cette cabine, avec l'aide de la commune et l'organisation, on va dire, sanitaire de la commune et du centre 15, cette cabine, elle se transforme en centre de téléconsultation. C'est-à-dire que dans des villes, et il y en a beaucoup, où il n'y a pas de médecin de garde la nuit, où il faut 30 minutes de trajet avec les pompiers pour aller aux urgences les plus proches, pour attendre 2 heures, parce qu'on n'est pas prioritaire, pour avoir une consultation et revenir, vous savez que 3 cas sur 4 qui arrivent aux urgences ne sont pas des cas d'urgence vitale. Hein, c'est des gens qui vont aux urgences parce qu'il n'y a que ça. Bon, ben pour éviter ça, cette cabine, aujourd'hui, elle est en mode téléconsultation, c'est-à-dire que la personne rentre, met sa carte vitale, il y a un médecin qui est, je sais pas, quel, à 700, 800, 900 km de là, qui prend la main sur la cabine, il fait sa consultation médicale et vous ressortez avec une ordonnance. Voilà. Donc cette cabine, elle existe, elle est sur Cluny, c'est la première en France et en Europe. Et là, le film que je vais vous montrer, je me déplaçais. Enfin, c'est pour que vous voyez rapidement à quoi ça ressemble. Alors, ça a été filmé à Cluny il y a 10 jours. Alors, je vais le faire avancer. Je sais pas. Alors, on va voir hein, si ça donne quelque chose. Alors, j'imagine qu'au fond, vous n'allez pas voir grand-chose, mais si vous pouvez vous rapprocher. Voilà. Je suis désolé, c'est fait à l'artisanal, mais on fait avec les moyens du bord. Alors, je vais essayer de commenter ça à côté. Comme on ne renonce jamais devant la difficulté. Alors, vous voyez quelque chose un peu ou c'est peine perdue? Ah ben, vous voyez, on va pas faire de la marque pour la marque d'ordinateur, mais ça marche bien quand même. Alors voilà, donc ça c'est une cabine. Vous voyez une dame qui rentre dans la cabine. Hein, donc, on fait les mesures de poids, de saturométrie. Là, elle est en train de mesurer son poids. Bien sûr, on peut calculer l'IMC, bien entendu, poids, taille et autres constantes. On prend la température. Il y a un brassard, vous allez le voir, qui permet de prendre la tension. C'est un brevet, puisque ce brassard-là... Alors, toutes ces mesures sont des mesures avec une norme CE qui est en fait la norme imposée dans le milieu hospitalier. Et donc, le bracelet, vous pouvez prendre votre tension sans enlever forcément le pull ou la chemise. Donc, c'est un brevet aussi là-dessus. Vous avez même tout ce qui est expression ORL, on peut effectivement mettre ça en place. On peut faire un électrocardiogramme, c'est-à-dire qu'elle met ses pinces directement au niveau des poignets. Et puis alors toutes ces informations médicales là, elles partent, soit elles sont enregistrées pour qu'on donne ces éléments là donc en direct sur un bout de papier, soit, et c'est ce que j'ai dit, donc la directive 94-42 CCE, c'est en fait ni plus ni moins une directive pour tout ce qui est mesures en milieu hospitalier, ou soit ces informations sont directement exploitées dans une case de téléconsultation, c'est-à-dire qu'un médecin qui n'est pas là physiquement, mais qui fait la visite médicale. Ben là, vous voyez le médecin, il est là, il est sur l'écran, et donc il vous parle, il vous dit voilà, vous prenez le stéthoscope, vous le mettez là, et puis bon, le médecin voit directement les résultats et entend le cœur du patient à 800-900 km de là, ce qui est extraordinaire. Donc voilà, la dame rentre sans carte vitale et elle ressort avec une ordonnance. Il faut savoir que ça, c'est possible en France depuis 4 ans. Voilà, bon là c'est la suite, mais vous voyez l'idée de ce programme-là, c'est pas uniquement de donner du service à l'instant T, c'est même mettre en place un vrai programme de veille sanitaire, c'est-à-dire que très concrètement, on répond à un problème de désertification médicale, voilà, il faut quand même savoir qu'en France, il y a quand même 2600 villages qui sont à plus de 2 heures d'un service des urgences, hein, et on est en France. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on répond aussi On met en place des informations complémentaires sur une vraie politique de prévention santé en donnant ces informations-là aux médecins traitants. Et trois, ces données-là peuvent être aussi des éléments qui vont servir à suivre certaines pathologies, parce qu'un senior, c'est ni plus ni moins qu'une personne qui a aussi des pathologies chroniques et que l'on doit suivre dans le temps. Et ça, pour certaines pathologies, ça peut être intéressant de suivre l'avancée de certaines pathologies chroniques. On est en train d'intégrer des tests cognitifs sur cette cabine qui vont pouvoir, peut-être pas déceler, mais juger de l'évolution d'état Alzheimer, entre autres. Donc vous voyez, l'idée, elle est là. C'est toujours mettre en place de la donnée pour pouvoir mettre en place une vraie politique de prévention en santé. Voilà. J'en ai fini sur la santé, qui était un peu long, mais ça valait le coup. Troisième point sur le cadre de vie d'une personne âgée qui doit dépasser plus que la problématique d'un simple logement, le lien social. Alors le lien social, quand vous coupez le lien social à une personne âgée, ben, vous lui diminuez son espérance de vie restante par deux. Voilà, ça se voit assez facilement dans certaines institutions où les gens sont placés, ils sont isolés et leur état dépérit à vue d'œil. Et donc l'idée, c'était de garder dans ces lieux de vie du vrai lien social. Alors comment a-t-on fait ? On l'a fait sur plusieurs niveaux. Un, sur la conception. On n'a pas inventé la poudre, hein. Voilà, on a repris ce qui existe depuis 120 ans, qui sont en fait ce qu'on appelle le béguinage, hein. Ça existe depuis un certain temps, c'est-à-dire que vous avez des pavillons où les gens vivent dans des pavillons de plein pied, et au centre vous avez une vraie vie, entre guillemets, où les gens se retrouvent avec un boulot de rhum, un jardin partagé, et puis une zone centrale où les gens peuvent faire des activités communes. Là, il n'y a rien d'extraordinaire, ça existe depuis 120 ans, ça s'appelle le béguinage. Bon, après, faut revenir sur le slide avec le plan de masse, voilà. Après, il faut savoir aussi que les activités qui sont proposées dans toutes les résidences sont proposées par les associations locales. C'est-à-dire que le montage, il est fait avec les associations locales du troisième âge, ce qui fait que vous avez des gens qui vivent dans la résidence qui profitent de ces activités, parce qu'elles avaient déjà, avant de déménager, l'habitude de, prendre des cours de gym avec l'association locale de gym. Eh bien, cette dame qui va déménager, parce que c'est un bouleversement le déménagement d'une personne âgée. Bon, elle va déménager, elle va arriver ici, elle va avoir les mêmes intervenants qui lui faisaient le cours de gym. Et elle aura aussi ses amis qui viendront au cours de gym, puisque les activités sont ouvertes aussi aux non-résidents. C'est pas, les gens vivent pas fermés entre eux. Donc, toute cette partie-là permet aussi de favoriser le lien social. Et la cerise sur le gâteau, on peut aussi améliorer le lien social par de la technologie. Je dis bien, c'est la cerise sur le gâteau, le gâteau étant tout ce que je viens de décrire en amont. Et la technologie, eh bien, c'est Philippe qui va vous en parler.
Voilà, l'essentiel a déjà été dit. Simplement, l'idée, eh bien, c'est de se servir des technologies dont on dispose déjà, pour les raisons que j'ai présentées tout à l'heure, pour améliorer la relation des résidents avec leur famille, avec leurs proches, avec leurs fournisseurs, avec leurs amis. On dispose d'une tablette, on va se servir de cette tablette pour disposer d'un album de photos qui vont s'ouvrir automatiquement sans qu'on ait besoin d'ouvrir un mail, de décompresser une photo, de choisir un logiciel pour l'afficher, etc. Le principe est que vous, membre de la famille, faites une photo avec votre iPhone dans le cadre d'un événement familial où la personne n'a pas pu se déplacer. Vous lui déposez, si bien évidemment vous avez les droits, vous lui déposez sur son compte photo dans la résidence, et immédiatement cette photo va apparaître sur la tablette sans qu'elle n'ait aucune manipulation à faire. Les différents albums que vous allez gérer pour elle à distance, elle va pouvoir les faire défiler, regarder les photos individuellement, se servir de la tablette en mode veille comme un cadre photo, par exemple, et puis d'avoir aussi des moyens extrêmement simples pour entrer en communication vidéo avec vous. Donc simplement une photo, un icône pour pouvoir lancer une communication vidéo et pour pouvoir raccrocher, donc des choses qui en termes d'interface doivent être extrêmement simples d'utilisation pour ne pas être rebutantes par des personnes qui ne sont pas forcément technophiles, quand on a la chance d'ailleurs qu'elles ne soient pas technophobes.
l'exemple de la petite dame là, vous avez vu en photo, qui a 83 ans, quand on lui a mis la tablette dans les mains, la première chose qu'elle a notée, c'est qu'elle pouvait rentrer en visio facilement avec ses enfants. Elle a un enfant qui habite à Cluny, hein, donc un enfant qui habite à San Francisco depuis 15 ans, et un autre, enfin un fils, pardon, et une fille qui est à Paris. Et donc elle me dit, moi j'essaie toujours, ils ont essayé de me mettre un ordinateur à la maison, mais ça marche jamais, la caméra elle se casse la figure, machin. Enfin bon voilà, c'est des histoires qu'on a tous autour de nous. Ben là, la visio est intégrée, il y a juste appuyé sur la photo de son fils, et puis elle intègre la visio simplement, comme l'arrivée des photos. Effectivement, ça paraît simple, mais pour recevoir des photos, il faut avoir un ordinateur, une adresse mail, et ben là non, effectivement, il n'y a pas besoin. Et donc on leur met cette technologie à disposition pour pouvoir aussi améliorer le lien social. Alors, donc on a fait quasiment la quadrature du cercle. Donc on a parlé du logement, et tout l'intérêt à travers cette présentation, c'est de montrer que faire des résidences pour personnes âgées, c'est bien, mais c'est pas que du logement, c'est vraiment pas que du logement. Pour mettre en place un vrai cadre de vie, le logement, c'est ni plus ni moins qu'un véhicule porteur d'autres dimensions. Si les autres dimensions sont pas là, je pense que le contrat est pas atteint. Le contrat, c'est quoi? C'est de fournir à des gens qui en ont besoin de la sécurité, des éléments pour mieux vieillir, c'est-à-dire la santé, des éléments aussi pour mieux vivre leur quotidien, c'est le lien social, et plus tard aussi, ça sera pour mieux consommer, parce que grâce à de la donnée, on pourra leur conseiller de consommer mieux. Mais ça sera pour l'année prochaine, si on a la vidéo, on vous le montrera, parce que a priori, on a fait déjà des films. Non, j'ai juste terminé. Alors, je parlais de quadrature du cercle, j'en ai rajouté un qui est au milieu, qui est l'accès pour tous. Alors, c'est bien beau de voir plein de choses. Là, c'est vrai que vous devez vous dire, c'est beau ce qu'ils ont fait, là, mais ça doit coûter terriblement cher. Eh ben non, justement, c'est pas terriblement cher, parce qu'on est à Cluny. Et Cluny, la moyenne des retraites là-bas, c'est 850 € par mois. Et vous allez me dire, 850 €, c'est bas. C'est pas si bas par rapport, alors là, vous pouvez y aller, à la moyenne nationale des retraites, qui est de 1 200 €. Voilà. Et puis, cette moyenne, elle ne va ne faire que diminuer. Donc, faire des choses bien, c'est bien, mais encore faut-il que ça réponde aux besoins du plus grand nombre. Et aujourd'hui, si on propose des solutions d'hébergement à 1 700, 1 800, voire 2 000 €, bah c'est bien. Ça ne répond uniquement qu'aux besoins d'un cadre dirigeant à la retraite. C'est ni plus ni moins qu'1% des seniors, des personnes âgées à la retraite. Voilà. Donc le but étant plutôt de répondre aux 99% restants. Et donc, bien l'idée, c'était justement de rendre ce projet-là accessible par tous. Et pour cela, il a fallu se creuser les méninges pendant 4 ans. Et donc on y est arrivé par plusieurs actions, une analyse de la valeur comme tout objet, c'est-à-dire qu'on regarde ce qui coûte cher et puis on regarde comment on fait pour baisser le coût. Et la première chose qui coûte quand on fait un logement neuf, et ben c'est le terrain. Paraît logique, hein. Voilà. Donc nous, dans toutes nos opérations, comme je l'ai dit, elles sont initiées en partenariat avec les communes, et que souvent la commune met à disposition le foncier. Ça veut dire qu'au pire, il est mis à disposition, enfin au mieux il est mis à disposition, au pire il est acheté, mais sans spéculation foncière dessus, c'est-à-dire bon voilà, parce que il y a un vrai projet social dessus. Première chose. Deuxième chose, là il y avait un film, alors ça fait un peu je vous passe rapidement, mais globalement, pour travailler avec les collectivités, on a mis en place plusieurs sites. Un site qui s'appelle La Dépendance, que je vous invite à aller voir, ladépendance.info, qui existe depuis 3 ans, et qui en fait donne des informations sur toute l'arrivée de la dépendance. Donc c'est un site qui tourne bien auprès des collectivités, donc voilà, je voulais vous le montrer. On est allé même plus loin, on a mis en place une démarche collaborative, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos principales interlocuteurs, c'était en fait les maires. Et aujourd'hui, on a mis en place un site collaboratif qui s'appelle Bifree, bifree.fr, où des gens d'une ville ou d'un village peuvent venir sur ce site, remplir une pétition, et au-delà de 50 personnes qui demandent du logement adapté dans leur ville, dans la même ville, nous, derrière, on prend le projet avec eux et on va expliquer le besoin à la commune. C'est-à-dire qu'il y a, en fait, in fine, on part du besoin réel, puisque ce sont des personnes âgées qui émettent le besoin. Alors qu'au départ, nos interlocuteurs étaient les maires. C'est assez intéressant parce qu'on a fait zéro pub, pas de communication, rien, et on a déjà deux pétitions qui sont parties toutes seules. Voilà. Bon, donc comme quoi, des fois, les seniors, ils sont aussi sur Internet. Bon, dernière chose, quand on n'y arrive pas, mais vraiment quand on n'y arrive pas, on vient de sortir un site qui s'appelle En Colloque. C'est-à-dire que c'est un site qui met en relation les étudiants avec les personnes âgées pour la colocation. L'étudiant, lui, ça le loge. La personne âgée, ça lui fait de la compagnie. Ça peut même l'aider. Voilà. C'est totalement, entre guillemets, on est totalement désolidarisé du système. C'était juste par volonté et action d'agir aussi pour les seniors. Voilà. C'est un site qui vient de sortir il y a 3 jours et j'espère qu'il aura une longue vie là-dessus. Mais ça, c'est vraiment qu'on n'arrive pas à les loger. Pour arriver donc à une maîtrise des coûts, eh bien, il y a dû avoir une vraie innovation qui porte à la fois sur la technique, sur le social et sur la technologie. Alors, technique, le procédé constructif qui a été lauréat en 2008 d'un concours, il faut savoir que la résidence, pour la monter, il faut 6 mois. 35 logements, 6 mois pour la construire. C'est basé à partir de panneaux frigorifiques. Et ce qui fait qu'on est quasiment passif, donc on est déjà BBC, RT 2012 pour ceux qui connaissent les normes thermiques. Et à la fin, ça donne ça. Bon, il n'y a pas le gazon, parce que c'est on n'a pas encore eu le temps de le poser, il fait trop froid. Mais voilà. Donc une innovation technique sur l'acte de construire, déjà, première chose. Une innovation sociale, parce que, je l'ai dit, mais je le répète, on intègre tous les partenaires de la commune, c'est-à-dire toutes les forces économiques de la commune, les associations pour les activités, les ADMR s'il y en a pour le portage de repas, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est pas un projet qui vit tout seul, au contraire, il ne vit que parce qu'il y a des satellites tout autour et des forces vives de la commune, c'est de l'innovation sociale. Et troisième chose, innovation technologique, que vous avez pu voir un peu sur toutes les explications qu'on vous a données. J'aime bien de citer cette phrase. Elle n'a d'intérêt, cette innovation technologique, que lorsqu'elle rend les gens heureux. Et lorsqu'on a vu la petite dame de 83 ans qui repartait de ces expériences-là heureuses, on s'est dit que peut-être on était en partie arrivé à l'objectif. Qui sont les financeurs de ces projets-là? Alors au départ, il y a 4 ans, c'était des investisseurs privés, vous et moi. Et aujourd'hui, on a des caisses de retraite qui nous rejoignent, des bailleurs sociaux et aussi des collectivités. Bon, c'est plus compliqué pour les collectivités, mais on a des collectivités qui nous rejoignent sur ces projets-là. Et demain, à quoi ça va ressembler? Alors là, on avait un super film, hein. Un accéléré et tout, mais là, je peux pas vous le faire, je suis désolé. On va faire ça l'année prochaine. Demain, ça sera quoi? Eh bien, ça sera en fait des plateformes de services. L'idée, avec la technologie que nous avons intégrée dans ces logements, qui est transparente pour les gens, c'est l'objectif final, c'est quoi? C'est vraiment aider les gens à mieux vieillir, mieux consommer, mieux vivre. Voilà. Et demain, c'est ça. Demain, à quoi ça va ressembler? Je pense que demain, ça ressemblera à des instituts médicalisés ou en tout cas des maisons de retraite qui ne prendront en charge que des dépendances très lourdes et de plus en plus de gens qui vont finir leur vie à domicile. Voilà. Donc il faut être prêt. Il faut être prêt, mais avec un coup qui tient la route. Parce que ça, c'est le nerf de guerre aujourd'hui de tout le monde et ça va le devenir de plus en plus. Et les services, ça vous permet de voir un peu ce qu'on va proposer, parce que l'exemple de Cluny, quand vous voulez un cours d'anglais à 15h à Cluny, ville de 5000 habitants, faut vous lever tôt pour trouver le prof d'anglais qui va vous donner un cours d'anglais à 15h, d'accord? Par contre, vous avez une tablette qui est ouverte sur des plateformes de services, que vous soyez à Cluny ou à Paris ou n'importe où, vous avez forcément une plateforme de services qui va vous donner votre cours d'anglais. Et vous allez pouvoir interagir avec cette personne-là sans forcément qu'elle soit devant vous. Voilà à quoi ça va ressembler demain. Et donc je laisse la parole à Philippe, justement sur ces fonctionnalités-là.
J'ai pas énormément de choses à ajouter. Les différents types de modules que l'on puisse trouver sont par exemple des modules qui sont liés à l'alimentation. Ça peut être un module qui va vous permettre d'interagir avec un fournisseur, capable de vous porter des repas à domicile, donc qui peut vous présenter les différents menus qui sont disponibles aujourd'hui, que vous pourrez sélectionner et que le fournisseur s'engage à vous livrer le lendemain à midi ou le soir en fonction de la commande que vous avez passée. Ça peut être en fonction des paramètres médicaux qui sont les vôtres, des conseils diététiques qui vont vous permettre de vous orienter vers des choix particuliers à l'intérieur des offres de services des gens qui peuvent vous porter des repas. Ça peut être, par exemple, accéder à un prestataire de service qui, en hiver, lorsqu'il y a de la neige sur les trottoirs ou que les trottoirs sont gelés et qu'il fait froid et que vous n'avez pas envie de sortir ou que vous ne pouvez pas sortir, eh bien, de faire la liste de vos courses les plus urgentes et de voir quelqu'un qui va vous les porter dans l'après-midi à votre domicile. Voilà. Donc, à partir du moment où on a posé la base d'une plateforme communicante et évolutive, eh bien, ces services, ils peuvent venir progressivement. Je crois qu'il ne faut pas avoir la prétention d'assommer une personne qui n'est pas forcément familière de ces technologies avec une palette de services extrêmement importante dans laquelle elle ne saura pas faire le tri, mais de lui apporter progressivement les services dont elle a besoin, et surtout en faisant un effort d'accompagnement, un effort de formation, un effort d'aide à l'utilisation. Voilà. Et c'est en partie le rôle du personnel des résidences Serenor notamment, c'est d'aider les résidents à l'utilisation de ces technologies et à leur apprentissage progressif. Alors, il y a quelques fonctionnalités supplémentaires que l'on peut apporter. Donc, on a sélectionné l'une ou l'autre pour illustrer notre propos. C'est par exemple ajouter des fonctionnalités de détection de chute. La détection de chute est quelque chose qui peut se pratiquer de manière efficace en mettant des capteurs sous le revêtement de sol. Le principe de ces capteurs sous le revêtement de sol, c'est de créer un champ magnétique à la surface du sol. Donc vous vous déplacez dans ce champ magnétique, en rentrant dans ce champ magnétique, eh bien vous venez le perturber avec la matière organique que constituent vos pieds ou avec du liquide que vous allez verser par terre, et cette perturbation va permettre de mesurer la surface que vous occupez au sol. Caricaturalement, si vous occupez la surface de 2 semelles de chaussures, on va considérer que tout va bien. Si vous occupez une surface supérieure, c'est que probablement vous êtes assis par terre au milieu de la cuisine, voire couché, ce qui n'est pas une situation a priori normale. Donc on va pouvoir engager un certain nombre de scénarios d'information ou d'alerte vers des gens qui vont pouvoir venir vous porter secours. Voilà. Alors là, il y avait un petit film qui aurait pu illustrer la démarche. Voilà, les semelles de chaussures de la personne qui serait déplacée dans la pièce, et puis vous auriez vu au bout d'un certain temps une surface assez importante s'illuminer au sol. Alors bien évidemment, l'illustrer, ceci n'a pour vocation d'illustrer le fonctionnement du système. Ça n'a pas d'intérêt dans la vie courante. Ce qui est important, c'est que le système justement ait conscience du caractère anormal de la situation, et puis envoie des SMS, des messages d'alerte, des messages vocaux vers les personnes concernées. Et cela peut s'accompagner d'ailleurs d'actions sur le système domotique du logement. Par exemple, une personne qui tombe, que l'on détecte à distance, eh bien le système peut également décider de monter la température du chauffage au sol, puisqu'on sait également que le fait d'être immobilisé par terre, même s'il n'y a pas de fracture ou de plaie ouverte importante, eh bien a des conséquences sur la santé. Que l'on peut, si ça se produit la nuit par exemple, c'est aussi d'allumer la lumière. C'est plus rassurant d'attendre des secours et plus confortable quand il fait chaud et qu'il y a la lumière que dans le noir et d'avoir froid, quoi.
Voilà, on avait aussi un dernier film à vous montrer pour répondre aux questions, mais en fait la conclusion elle est simple, simple et complexe à la fois. On peut pas uniquement se baser sur du logement pour proposer un cadre de vie à des personnes âgées, et il faut vraiment intégrer d'autres dimensions. L'innovation technologique, elle n'a pas de fin en soi, mais c'est on va dire un complément pour améliorer le cadre de vie de ces personnes. Et puis tout ça avec des coûts qui doivent être toujours maîtrisés, parce que, encore une fois, la moyenne nationale des retraites est en 1 200 €. Il faut pouvoir proposer tout ça, tous ces aménagements-là au plus grand nombre. Et c'est ce que nous essayons de faire depuis 4 ans, en se battant. Et la première réalisation est aujourd'hui sortie de terre. Et les autres devraient suivre très rapidement. Voilà, merci pour votre attention. On va bien entendu vous laisser le micro pour les questions si vous en avez. et vous reconvient l'année prochaine où là, avec grand plaisir, nous vous montrons toutes ces vidéos. Alors, sur Cluny, ils peuvent rendre... Alors, les loyers, c'est à 450 euros par mois et ça va jusqu'à 650 euros par mois, par logement. Non. Il faut rajouter... alors, les, si vous avez les services, tous les services intégrés, c'est 750. Alors, sachant qu'il y a des aides après, derrière, et que c'est la première opération, qu'il y a d'autres montages qui sont plus... Les prochains sont encore plus optimum, parce que... Bon, C'était le proto, là. Je vais vous donner les micros. Il marche bien, celui-là, d'ailleurs.
Oui, merci. Est-ce qu'il y a une équipe, vous avez parlé de personnel sur place, est-ce que c'est une équipe d'accueil? Vous pouvez nous dire quelques mots?
Oui, il y a du personnel sur place. Alors, du personnel, ils sont pas très nombreux, hein, parce que avec effectivement toute la techno qu'on a mis en place, le but c'est de vraiment d'optimiser tout ça. Oui, il y a des gens qui vivent sur place, ils ont un logement de fonction. Ils font pas que de l'accueil. Hein. Ah, non, c'est le micro. Le micro, il arrive là.
Être sur place, c'est bien, mais qu'est-ce qu'ils font exactement?
Les gens qui
ils gèrent
la vie de la résidence, le besoin des résidents, l'accueil, ils fournissent du service individualisé en fonction des besoins des personnes. Vous avez je dois prendre toujours l'exemple de cette petite dame, enfin vous savez, quand vous avez une dame qui se retrouve souvent, c'était le mari qui faisait les papiers, les déclarations d'impôts, les choses comme ça. Ils ont besoin d'aide pour ce genre de choses au quotidien. Donc voilà, leur mission, ce n'est pas de faire uniquement acte de présence, c'est vraiment gérer la vie de la résidence au quotidien.
Ok, et si, par exemple, il se passe un problème la nuit, ces personnes sont disponibles 24/24?
Non, justement, par la technologie que l'on a mis en place, on a des plateformes de télésurveillance qui font des levées de doutes et qui gèrent des alarmes.
D'accord.
C'est-à-dire, c'est pas une présence H24. C'est justement grâce à la techno qu'il y a dans les logements.
D'accord. Ok, merci beaucoup.
Merci. Je reviens sur l'équipement du domicile pour que la vie soit plus facile pour les seniors. Il y a un certain nombre de choses qui sont effectivement plus aisées pour les seniors, mais qui sont tout aussi faciles pour le commun des mortels, et donc à tout âge. Par exemple, vous avez cité la présence du thermostat, du radiateur dans la salle de bain qui est en position basse. Je pense que s'il était en position médium, ça faciliterait la vie de tout le monde, mais pas que des seniors. Est-ce qu'il y a des réflexions à ce niveau-là, hauteur des prises par exemple, de la part du gouvernement pour imposer des nouvelles normes pour tout ce qui est construction neuve, sans que ce soit des constructions destinées aux seniors, mais qui finalement intégreraient à la conception des principes très simples, hein, sans aller chercher des technologies chères ou des choses comme ça, mais qui intégreraient dès le départ maintenant en vue de l'autonomie des personnes pour les laisser à domicile le plus longtemps possible. Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion déjà qui peut être menée sur des choses très simples? Est-ce que c'est fait aujourd'hui au niveau du gouvernement, par exemple? Ou est-ce qu'il y a des labels? Est-ce qu'il va y avoir des nouvelles normes? Parce qu'on parle de normes BBC par rapport à l'environnement, etc. Mais il pourrait y avoir des nouvelles normes dans la réflexion de maintenir les gens le plus longtemps à domicile.
Je peux pas vous répondre, j'en ai aucune idée, mais je pense que c'est quelque chose qui va se faire, effectivement, parce que, comme vous êtes en train de le dire très justement, comme vous avez pu le voir sur les photos, ce sont pas des éléments qui coûtent très cher. Hein. J'ai pas parlé des murs, vous avez vu les photos du logement, je sais pas si vous avez remarqué, mais les murs étaient gris. C'est pas parce qu'on a sorti la dernière mode du gris souris, hein, c'est simplement qu'il faut du contraste visuel pour des gens qui sont un peu déficients visuellement. Donc quand vous avez un interrupteur blanc sur un mur blanc, aller chercher un interrupteur, c'est pas facile. Hein, voilà. Donc c'est avec, effectivement, il y a des éléments de bon sens qui n'ont pas forcément un coût directement, mais qui doivent être intégrés. Bon, je sais pas, je peux pas vous répondre.
Merci.
Sur la question de la normalisation, en revanche, il y a des démarches en cours. Il y a des démarches en cours, ce salon en est l'illustration, il y a une démarche Silver Economy qui a été initialisée conjointement par le ministère du redressement productif et par le ministère de la Santé pour la branche autonomie et personnes âgées. Et dans ce contexte-là, va être signé la semaine prochaine un contrat de filière, Silver Economy, qui va engager le gouvernement et un certain nombre d'industriels, si vous voulez, à avoir une démarche constructive, réfléchie et coordonnée pour aller vers non pas un certain nombre de standards imposés par la loi aujourd'hui, ça viendra dans une étape ultérieure, mais vers le recueil d'un certain nombre de bonnes pratiques, tout simplement, qui vont permettre d'être diffusées et d'être appliquées de manière le plus systématique possible dans le logement, lorsqu'il est destiné à du senior, mais aussi lorsqu'il est destiné à d'autres catégories de population. Les gens qui font du handicap, et Didier Marcellier là, est un grand spécialiste de la question, il est présent aujourd'hui, le savent depuis longtemps, quand on fait des adaptations d'une installation électrique, par exemple, pour des handicapés, eh bien, ça ne gêne absolument pas les autres catégories d'utilisateurs, mais par contre, ça a l'effet bénéfique de permettre à des gens qui souffrent de handicap variés, eh bien, de se servir de choses auxquelles nous avons accès de manière facile, et si on ne prend pas garde à la manière dont on les implémente, eh bien, ça devient totalement impossible. Je vous donne une illustration. On a tous une hotte aspirante dans notre cuisine. Elle se situe à 1,70 m du sol et le bouton de commande, il est là-haut. Bah, simplement, quand vous avez 85 ans et que vous avez de l'arthrose dans l'épaule, vous n'arrivez pas sur ce bouton sans être obligé de faire des acrobaties pour monter sur une boîte en carton et essayer d'aller appuyer dessus. C'est très simple de mettre le bouton en bas, hein. C'est pas très compliqué. Il y a 1 mètre de fil à prévoir au moment où on conçoit la cuisine pour que le problème soit réglé. Regardez tous les logements qui sont livrés sur le marché, c'est des interrupteurs blancs sur des murs blancs. D'accord ? Bon, c'est simple, ça plaît à tout le monde, c'est facile, on prend pas trop de risques en faisant ça. Mais il n'y a rien de plus idiot à faire pour des gens dont immanquablement l'acuité visuelle va aller en s'amenuisant avec le temps. Il suffit de mettre des contrastes, soit au niveau de la couleur de l'interrupteur, soit au niveau de la couleur du mur. Quand on fait le choix de la couleur du mur, on peut en plus choisir des teintes et des pigments qui sont anti-réfléchissants, anti-éblouissants, parce que en vieillissant, on a aussi des mécanismes au niveau de la vue qui font qu'on est ébloui plus facilement, on met plus de temps à récupérer une vision normale lorsqu'on a été ébloui de manière passagère. Choisir une peinture mate anti-éblouissante au niveau du mobilier de cuisine, des murs, etc., tout ça, ça devient des petits avantages qui ne sont pas perçu à première vue, mais dont je vous assure que la personne âgée ou la personne déficiente visuelle va bénéficier au quotidien. Et des exemples comme ça, il y en a des livres pleins. Tout ça illustre bien que les technologies, effectivement, permettent d'apporter, de faciliter l'accès à un certain nombre de services, d'améliorer le confort, etc., mais qu'il y a tout un champ à balayer avant et après pour faire quelque chose de véritablement cohérent et d'adapté aux personnes en risque de perte d'autonomie.
Mais souvent, toutes ces technologies ou toutes ces réflexions n'ont pas été mises en place, même si certains en ont conscience, parce qu'il y a un surcoût. Et s'il y a un surcoût aussi parce qu'elles ne sont pas généralisées. Imaginez que, par exemple, les interrupteurs blancs n'existent plus ou très peu, que ce soit l'interrupteur marron qui existe, le coût de l'interrupteur marron diminuerait, puisque tout le monde serait obligé d'acheter des interrupteurs marrons, et finalement, il n'y aurait pas de surcoût. Mais ça, il faut qu'au départ, il y ait suffisamment d'engagement, et pourquoi pas une norme ou quelque chose d'imposé pour que tout le monde aille dans cette direction en même temps et que les coûts baissent.
Tout à fait. Par contre, un interrupteur, si vous voulez, avec un liseré de couleur facilement identifiable ou avec un voyant de couleur qui d'ailleurs change d'intensité en fonction de l'éclairage ambiant de la pièce, aujourd'hui, ça coûte 1 euro de plus. Alors vous me direz, il y en a une dizaine dans un logement, ça fait 10 euros de plus par logement. C'est quand même pas le bout du monde. Aujourd'hui, une tablette comme ça, vous allez l'acheter au supermarché du coin à 250 euros. Ça coûte pas une fortune. Les choses deviennent quand même de plus en plus facilement accessibles. Voilà. Alors, il est vrai que quand on les accumule les unes au bout des autres, eh bien, on arrive à des sommes qui sont un peu plus importantes. Le choix judicieux des technologies et le fait qu'on les systématise, par exemple, au niveau d'un programme immobilier, fait aussi que ça devient progressivement plus accessible. Mais en tout cas, nous avons conscience de ça.
En parlant de coûts, sans parler du mode constructif, toute la technologie que vous avez montrée, les capteurs, plus la tablette, il faut compter un total de combien par logement ? Si on veut l'adapter dans tout projet, d'ailleurs, hein, c'est pas forcément un projet de résidence, mais ça peut être un logement classique.
Si vous voulez, il y a différents modèles économiques. Il y a des choses simples. Par exemple, voilà, je reprends cet exemple-là, là, que j'ai sous la main. Ça va coûter le prix de la tablette et de l'installation à l'initialisation. Et puis après, ça va coûter, je sais pas, 30, 40, 50 euros par mois, en fonction du type de service auquel vous voulez accéder. Bon, je prends l'autre extrémité. Vous avez votre maison, vous voulez l'équiper d'un système domotique. Selon l'importance des travaux, on va choisir des technologies câblées ou des technologies radio. Ça peut aller de 3 500 € à 5 000 €, voire à 10 000 si vous voulez encore faire des choses plus sophistiquées qui vous permettent d'automatiser l'ouverture des portes, etc. Donc après, il n'y a pas de, c'est 3 500 € à l'infini. Voilà, comme ça, la chose reste ouverte. Mais par contre, si vous mettez ça en perspective du reste à charge que vous avez lorsque vous entrez en établissement médicalisé, vous n'avez pas besoin de moi pour vous aider à faire le calcul, pour savoir quelle est la... Alors, quand on est particulier, on raisonne pas forcément de cette manière, mais quelle est la durée d'amortissement de l'investissement que vous avez effectué. Voilà, quand à 70 € la nuit dans une maison de retraite, si vous êtes obligé d'en porter financièrement la moitié de la charge ou plus... comparé à une solution où vous allez dépenser 3 500 € d'équipement posé, installé avec un service associé dans votre logement, ça vous permet de rester chez vous 2-3 ans de plus. À la fin, ça vous a coûté largement moins cher.
Ah oui, voilà. C'est clair.
Plus de questions ? Alors avant de partir, vous aurez l'intégralité de la présentation avec les vidéos sur Facebook et sur le site serenor.fr à partir de mardi. Voilà. Merci pour votre présence. Bon week-end.